L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
24 décembre 1938, veille de Noël. Il est 8h du matin lorsque Mervyn LeRoy, producteur de la Metro-Goldwyn-Mayer, se rend dans un hôpital du comté de Los Angeles. La veille, Margaret Hamilton, une des actrices qui joue dans son prochain film, a dû être hospitalisée en urgence après avoir pris feu sur le plateau de tournage. Loin d'effectuer une simple visite de courtoisie, LeRoy vient avant tout s'assurer que l'actrice pourra retourner au travail au plus vite. Il faut dire que Mervyn LeRoy n'est pas n'importe qui. C'est lui qui produit la première adaptation cinématographique du Magicien d'Oz. Un projet ambitieux, pharaonique, qui bat déjà tous les records avant même sa sortie au cinéma. Tournage à rallonge, budget explosé, succession de démissions, tragique accident et hospitalisation à la chaîne. Le tournage du Magicien d'Oz est aussi monumental que cauchemardesque. Nous sommes le 24 décembre 1938. Il est 8h du matin et c'est l'heure H de mon histoire. Au départ, il y a un livre publié en 1900, Le Magicien d'Oz. Dès sa parution, il connaît un succès immédiat qui le propulse très vite au rang de classique de la littérature américaine. Le roman raconte l'histoire de la jeune orpheline Dorothy, qui habite au Kansas, chez son oncle et sa tante, avec son fidèle chien Toto. Un jour, alors qu'une tornade soulève sa maison, Dorothy se retrouve transportée dans le pays merveilleux d'Oz où vivent les Munchkins, de petits humanoïdes protégés par la bonne fée du Nord et menacés par la méchante sorcière de l'Ouest. Complètement déboussolée, Dorothy veut retrouver le chemin de sa maison. Alors la bonne fée du Nord lui conseille de suivre The Yellow Brick Road, cette fameuse route de briques jaunes, qui l'amènera à la cité d'Émeraude où vit le puissant magicien d'Oz. Lui devrait être en mesure de l'aider. En chemin, chaussée de souliers couleur rubis, Dorothy rencontre un épouvantail qui voudrait avoir un cerveau, un bûcheron en fer blanc qui rêve d'avoir un cœur et un lion poltron qui souhaite retrouver du courage. Cette histoire, c'est à l'auteur Lyman Frank Baum, dit L. Frank Baum, qu'on la doit. Fort de ce succès colossal, il est d'ailleurs encouragé à continuer d'écrire sur l'univers d'Oz, ce qu'il fait, en écrivant pas moins de 13 suites au Magicien d'Oz. Mais aucune n'égalera l'immense succès de son premier roman. Comme toujours, la réussite attire. Très vite, des professionnels du monde du spectacle imaginent mettre en scène les aventures de Dorothy. C'est chose faite en 1902, lorsque l'histoire est adaptée pour la première fois, sous la forme d'une comédie musicale. Présentée sur les planches de Broadway, le spectacle est un véritable triomphe. Et ça attire l'attention des studios de cinéma, bien décidés à mettre la main sur le phénomène Oz. Quelques années plus tard, en 1908, L. Frank Baum remet une pièce dans la machine. Il tente d'adapter le musical dans un format hybride, à mi-chemin entre film d'animation, film muet et spectacle vivant. L'histoire est narrée par l'auteur lui-même, sur scène, accompagné d'un orchestre live. Ce deuxième projet d'adaptation est extrêmement ambitieux. Et cette ambition a un coût très élevé, que L. Frank Baum finance directement de sa poche. Malheureusement, les ventes de billets ne permettent pas de couvrir les frais de production. Baum, alors endetté, est obligé de mettre la clé sous la porte. Pour solder ses dettes, l'auteur est contraint de vendre les droits de ses livres aux producteurs du spectacle. C'est ainsi qu'en 1910, une première adaptation purement cinématographique du Magicien d'Oz voit le jour. Ce court-métrage muet et fantastique, d'une durée de 13 minutes, est le résultat concret de la faillite financière de L. Frank Baum, qui n'a même pas été consulté pendant la production. Épuisé et fauché, L. Frank Baum meurt des suites d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 62 ans, le 6 mai 1919. Il ne verra donc jamais l'adaptation de 1939 dont je vais vous parler aujourd'hui. Heureusement, Baum laisse derrière lui 4 fils, et l'un d'entre eux parvient à racheter les droits du livre du magicien d'Oz. L'histoire est à nouveau adaptée sous plusieurs formes. Fiction radiophonique, court-métrage d'animation, pièces de théâtre. Finalement, Baumfils vend les droits à un puissant studio de cinéma hollywoodien, la Metro-Goldwyn-Mayer, aussi appelée MGM. Vous savez, la MGM, c'est le studio qu'on reconnaît grâce à sa marque de fabrique, ce célèbre lion, rugissant avant chaque début de film. Malgré les nombreux échecs d'adaptation, la MGM est convaincue du haut potentiel cinématographique du magicien d'Oz. Pourtant, le contexte est loin d'être favorable à la création et à la fantaisie que demande le magicien d'Oz. Rappelons qu'en 1939, la guerre n'est plus une menace, mais bien une réalité. Alors la question se pose, l'époque est-elle vraiment au conte de fées? En plus, un autre gros studio de production hollywoodien vient de se casser les dents sur l'adaptation d'un conte en prise de vue réelle, celle d'Alice au Pays des Merveilles. Produit par la Paramount, le film n'obtient pas l'adhésion des spectateurs et spectatrices. Pire, il provoque même un certain rejet. Il y aurait de quoi démotiver plus d'une société de production. Ce n'est pas le cas de la MGM qui a pour inspiration le succès cinématographique d'un autre conte populaire, Blanche-Neige. Sorti en 1937, Blanche-Neige est le premier long-métrage d'animation produit par Disney. Il est tout de suite considéré comme un chef-d'œuvre du conte fantastique, au succès autant critique que populaire. Ce triomphe au box-office encourage les producteurs à s'aventurer à nouveau du côté des contes merveilleux pour enfants. Et dans ce registre-là, Le Magicien d'Oz est une histoire incontournable, qui n'a pas encore connu l'adaptation à succès qu'elle mérite. C'est du moins ce dont est convaincu Mervyn LeRoy, jeune producteur fraîchement débauché par la MGM. Sa première mission, et non des moindres, est donc de produire une nouvelle adaptation cinématographique du Magicien d'Oz de L. Frank Baum. À vrai dire, passionné par l'univers du roman depuis tout petit, LeRoy voulait lui-même réaliser le film, en plus de le produire. Mais le directeur de la MGM l'en dissuade. D'autant qu'à l'époque, le résultat d'un film tient plus de la vision d'un producteur qui a tous les pouvoirs décisionnaires qu'à celle d'un réalisateur souvent relégué à un rôle plus technique. N'oublions pas que depuis les années 20, Hollywood est en plein âge d'or. La mainmise des studios de production sur l'industrie du cinéma est à son apogée. Les studios contrôlent chaque aspect d'un film, jusqu'à son exploitation en salle de cinéma, salles qui appartiennent elles-mêmes aux studios. Et parmi ces studios qui gouvernent Hollywood, le plus puissant est sans conteste la MGM. On raconte même qu'ils finissent un film tous les 9 jours, rendez-vous compte. Alors, s'il y a bien une structure capable de s'atteler au défi qu'est l'adaptation du Magicien d'Oz au cinéma, c'est bien la MGM. Mais quel réalisateur embauché ? Mervyn LeRoy songe d'abord à Norman Taurog, un cinéaste qui vient tout juste de réaliser un film avec des acteurs enfants. Finalement, LeRoy choisit Richard Thorpe pour le congédier seulement 2 semaines plus tard. Il justifie cette décision en affirmant que Thorpe n'avait pas ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, selon lui, c'est une âme d'enfant. Visiblement, le réalisateur, George Cukor, qui est embauché juste après, en manque également, car il décide de lui-même quitter le projet. Pour la simple et bonne raison qu'il ne le comprend pas. Finalement, Après une myriade de réalisateurs envisagés, c'est le caméraman Victor Fleming qui est choisi pour son savoir-faire technique. Le script donne également du fil à retordre à Leroy. Il y a les scénaristes qui proposent d'enlever tout ce qui est fantastique dans le roman pour en faire une version réaliste. Il y a ceux qui claquent la porte avant même d'avoir commencé, ou encore d'autres qui demandent à ce que leur nom ne soit pas associé au projet. Au total, 14 scénaristes participent à l'écriture. Dans la version finale du générique, il n'en reste plus que 3. Et c'est sans compter sur le travail du parolier Yip Harburg, qui a élaboré toutes les scènes musicales et les chansons qui rythment le scénario et qui donnent sa forme au film. Toujours est-il qu'après avoir débauché un réalisateur et peaufiné un scénario solide et fidèle au livre, il faut trouver les acteurs et les actrices capables d'incarner ces personnages. Et dans une comédie musicale, il ne suffit pas de savoir jouer. Il faut pouvoir chanter et danser. Pour les seconds rôles de l'épouvantail et de l'homme de fer blanc, 2 acteurs sont choisis. Mais l'un est convaincu qu'il est fait pour jouer le rôle de l'autre. Alors ils échangent. C'est moins facile pour le rôle du lion peureux, dont la MGM ne sait que faire. Le studio a d'abord choisi de retirer le rôle du scénario avant de l'y intégrer à nouveau avec l'idée d'utiliser la mascotte de l'entreprise, le fameux lion rugissant, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, finalement, comme pour l'épouvantail et l'homme de fer blanc, tout le monde se met d'accord pour donner le rôle à un acteur en costume de lion. Le personnage capital de la méchante sorcière de l'Ouest est lui aussi sujet à discussion. Comme le modèle à suivre est alors le Blanche-Neige de Disney, son esthétique s'inspire d'abord de la méchante Reine Sorcière, qui est un personnage assez glamour, chic et séduisant. Mais après de mûres réflexions, le producteur décide de rester fidèle au livre, en faisant de la méchante sorcière de l'Ouest un personnage vilain, autant moralement que physiquement. Suite à ce changement, l'actrice qui devait initialement incarner la sorcière préfère quitter le projet. Et c'est la comédienne Margaret Hamilton qui est choisie pour la remplacer. Il reste encore un rôle de taille, qui n'a toujours pas trouvé d'incarnation. Il s'agit bien entendu de Dorothy, le personnage principal, rien que ça. La difficulté du casting est tout autre, car il s'agit là d'un rôle d'enfant. Qui pourrait bien avoir les épaules pour porter ce film à gros budget et grandes ambitions? Au début, c'est la toute jeune Shirley Temple qui est pressentie. Il faut dire que cette dernière est l'enfant star incontournable des années 30. C'est un choix rassurant pour le studio car son visage est déjà bien connu. En plus, au moment du casting, elle est âgée d'à peine 11 ans, ce qui collerait parfaitement avec l'âge de Dorothy dans le livre. L'évidence est là, mais il y a un mais, et non des moindres. Les auditions de chant de la jeune actrice sont loin d'être à la hauteur des numéros musicaux du film. Mais alors qui pour enfiler les célèbres souliers rouges rubis de Dorothy? Grâce à son incroyable talent de chanteuse, c'est Judy Garland qui est finalement choisie, et ce, même si elle est âgée de 16 ans, ce qui vieillit légèrement le personnage. Avec un casting au complet, le tournage du Magicien d'Oz peut enfin commencer. Les acteurs et les actrices sont loin d'imaginer le cauchemar qui les attend. Après des mois et des mois de préparation pour le moins complexe, le tournage du Magicien d'Oz s'annonce grandiose. L'idée est de faire du Broadway à l'écran, avec des moyens artisanaux propres aux années 30. C'est-à-dire un tournage en studio dans des décors grandeur nature avec plus de 4000 costumes pour habiller pas moins de 1000 interprètes. Mais c'est pas tout. Le projet comporte des défis ambitieux, comme la prouesse technique du passage du noir et blanc à la couleur et même au technicolor, ainsi que de nombreux effets spéciaux indispensables à la crédibilité du film. Tous les ingrédients sont donc réunis pour un tournage extraordinaire. C'est peut-être pour ça que de folles rumeurs circulent. On raconte que les acteurs de petite taille, qui interprète les Munchkins, organise des orgies dans l'hôtel où il réside. Et même que l'un d'entre eux se serait pendu et que l'on pourrait voir son corps sans vie au second plan d'une scène du film. Il n'en est rien. Mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Enfin, jugez vous-même. Le tournage du Magicien d'Oz commence en octobre 1938. Au bout d'une semaine à peine, le premier accident arrive. Un éclairage explose et les étincelles de l'explosion tombent sur une partie du casting. Trois jours plus tard, Buddy Ebsen, qui doit interpréter l'homme de fer blanc, se retrouve à l'hôpital. En fait, pour rentrer dans la peau du personnage, l'acteur doit porter un maquillage argenté qui contient de l'aluminium. Les particules d'aluminium sont extrêmement toxiques. Très vite, elles remplissent ses poumons et créent une détresse respiratoire qui l'envoie à l'hôpital. Il est contraint d'y passer deux semaines sous oxygène. La version officielle donnée à la presse affirme que Buddy Ebsen a une pneumonie. La production nie ainsi toute responsabilité, alors même que seulement 10 jours à porter le maquillage argenté suffiront à lui donner des problèmes respiratoires à vie. En tout cas, avec Ebsen à l'hôpital, le tournage est compromis. La mise à l'arrêt forcée permet néanmoins à Leroy de visionner ce qui a été tourné jusqu'alors par son réalisateur, Richard Thorpe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il voit. Il trouve que la version de Thorpe est froide, qu'elle manque de magie. Alors sans crier gare, il le vire. Ou plutôt, il l'assigne à un autre projet de la MGM. En attendant d'embaucher un nouveau réalisateur, il engage George Cukor en tant que consultant pour trouver des solutions. En une semaine, Cukor fait beaucoup de changements. Il intensifie les traits de la méchante sorcière, en même temps qu'il modifie ceux de Dorothy, jusque-là dépeinte en princesse éthérée. Il lui ajoute ses fameuses couettes et incite Judy Garland à avoir une performance plus ancrée. Ces changements sont subtils, mais ils donnent une toute autre aura magique au film qui se rapproche de ce dont rêve Leroy. Le seul point noir à l'apport artistique de Cukor est que tout ce qui a été tourné avant devient obsolète. À deux, trois détails près, il faut repartir de zéro. Mais ce n'est pas Cukor qui va s'en charger. Car au bout d'une semaine de précieux conseils, le réalisateur quitte Oz pour s'engager sur un tout autre projet. Celui d'Autant en emporte le vent. Vous vous dites peut-être que ça fait déjà beaucoup de changements pour un tournage qui vient de débuter. Mais si vous avez bien suivi, vous savez que c'est Victor Fleming, le réalisateur de la version finale du Magicien d'Oz, qui prend la relève. Même si Fleming s'engage totalement et durablement, ce n'est pas pour autant que le tournage devient un long fleuve tranquille. Dès la reprise, Fleming commet des impairs. À commencer par des scènes avec l'homme de fer blanc, vêtu du mauvais costume. Ce qui crée des gros problèmes de faux raccords entre les scènes et oblige à nouveau la production à jeter de la pellicule à la poubelle. Bien sûr, et vous en doutez, tout cela a un coût. Lorsque les patrons de la MGM voient passer les factures, ils sont très très inquiets. Ils considèrent que Leroy jette l'argent par les fenêtres, mais le producteur parvient à les rassurer. Il est convaincu que tout ça vaut le coup. Le résultat final fera oublier toutes les déconvenues. Il en est persuadé. La vérité, c'est que, même si Leroy est confiant, il est à bout de nerfs. Dire qu'il est en burn-out serait peut-être anachronique, mais tout à fait justifié. À ce stade-là, il n'a plus le choix. Il faut avancer quoi qu'il en coûte. Alors il doit composer avec Victor Fleming, désormais à la manœuvre. Malheureusement, la suite réserve son lot d'accidents. Outre des hospitalisations suite à des chutes causées par des harnais défectueux, l'acteur qui incarne l'homme de fer blanc connaît une nouvelle frayeur. Même si son nouveau maquillage argenté est beaucoup moins nocif, le costume extrêmement rigide reste très dangereux. Un jour, en trébuchant, l'acteur passe à deux doigts de se faire sectionner la trachée par son costume. Ça fait déjà beaucoup de catastrophes pour un seul film. Mais la liste ne s'arrête pas là. Un des problèmes majeurs du tournage est son recours à l'amiante, utilisé pour à peu près tout. On ne sait pas encore à quel point cette substance est toxique, alors on l'utilise pour faire de la fausse neige, de la fausse poussière et même tous les décors en carton-pâte. Décidément, personne n'est épargné par la dangerosité du tournage. Même Toto, le chien de Dorothy, est victime d'un accident qui l'immobilise pendant plusieurs semaines. Ah oui, et puis j'ai omis un détail de taille. Je vous racontais plutôt que l'un des défis du projet est de filmer en Technicolor. Le Technicolor, c'est une nouvelle pellicule qui fait particulièrement ressortir les couleurs vives. C'est parfait. Parfait pour l'univers féerique et magique du Magicien d'Oz. Il y a cependant un petit problème. La pellicule est très peu sensible à la lumière. Alors il faut éclairer un maximum le plateau pour qu'elle imprime bien. Mais les lampes, ça chauffe et ça consomme. On estime d'ailleurs que l'éclairage a coûté un dixième du budget global, ce qui est évidemment considérable. Au-delà de la question financière, l'éclairage intense fait monter à 40 degrés la température du plateau. Difficile de ne pas s'évanouir lorsqu'on doit danser, chanter et jouer la comédie sous des lampes brûlantes pendant des journées de travail qui durent en moyenne 19 heures. Je qualifiais tout à l'heure le tournage de cauchemar. Mais certains acteurs le qualifient même de véritable enfer sur Terre. Et encore, ce n'est rien comparé à ce qui attend Margaret Hamilton. Dans l'une des scènes, la méchante sorcière de l'Ouest est censée disparaître dans un écran de fumée avant que sa silhouette ne soit remplacée par une immense flamme. Lors d'une prise, la flamme part avant que l'actrice n'ait eu le temps de disparaître de la zone enfumée. Margaret Hamilton se retrouve alors au beau milieu du feu. Son balai et son chapeau de sorcière s'enflamment instantanément. Puis c'est au tour de sa tenue et de son corps tout entier de s'embraser sous le regard circonspect de l'équipe technique. Tous se précipitent auprès d'elle pour la sortir du feu, mais c'est déjà trop tard. Le mal est fait. L'actrice souffre de brûlures au premier et second degré. Et pour ne rien arranger, son maquillage aggrave encore la situation. Pour avoir la peau et les mains vertes, Margaret Hamilton porte un maquillage constitué de particules de cuivre. Ces dernières réagissent au feu en creusant sa peau. Alors le maquilleur doit retirer en urgence le maquillage avec de l'alcool. L'actrice dira plus tard qu'il lui a sauvé la vie, mais qu'elle n'a jamais connu de pire douleur que la sensation de l'alcool sur sa peau fraîchement brûlée. Ni une ni deux, Margaret Hamilton est emmenée à l'hôpital où les médecins doivent évaluer l'ampleur de la situation. Bon, la bonne nouvelle, c'est que, hormis un épisode traumatique, elle devrait s'en sortir sans trop de séquelles. La mauvaise nouvelle, c'est que l'actrice ne pourra pas retourner sur le plateau pendant 6 semaines. À ce stade d'avancement, le studio ne peut pas la remplacer. Alors, ils n'ont d'autre choix que d'avancer sur les scènes qui ne nécessitent pas sa présence en attendant la fin de sa convalescence. Un mois et demi plus tard, Margaret Hamilton revient sur le plateau du Magicien d'Oz. Elle doit interpréter une scène où la méchante sorcière de l'Ouest écrit un message dans le ciel à l'aide de son balai volant qui laisse échapper une épaisse fumée noire. La production lui propose alors de porter un tout nouveau costume inifugé. Mais encore traumatisée par sa dernière expérience d'effet pyrotechnique, Margaret Hamilton refuse catégoriquement de réaliser cette scène. C'est sa doublure qu'il fera, un point c'est tout. La suite des événements lui donne raison. La cape du costume de sorcière se prend dans le tuyau par lequel sort la fumée noire. Le tuyau est situé sous la cuisse de la doublure, installée à califourchon sur son balai. Au bout de la troisième prise. Le tuyau explose. La doublure est gravement blessée. Elle est emmenée à l'hôpital où elle doit subir en urgence une hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation de son utérus. Cette fois, la coupe est pleine. Le studio demande à Mervyn LeRoy d'arrêter les frais et d'abandonner ce projet maudit. Mais convaincu de l'importance du film, le producteur parvient à persuader l'équipe d'aller jusqu'au bout. Pour ne rien arranger, la MGM demande à Victor Fleming de quitter le plateau du Magicien d'Oz pour aller réaliser « Autant n'emporte le vent » à la place de George Cukor. Ouais, si vous avez bien suivi, Fleming vient remplacer Cukor sur « Autant n'emporte le vent » alors que Cukor était lui-même le prédécesseur de Fleming sur « Le Magicien d'Oz ». Comme quoi, à Hollywood, il faut être prêt à se plier au jeu des chaises musicales. Toujours est-il qu'avec le départ de Fleming, c'est le retour à la case départ. Il faut à nouveau trouver un réalisateur pour « Le Magicien d'Oz ». Dans l'intervalle, le producteur réalise son rêve secret de cinéaste en tournant en douce quelques scènes. Mais le studio ne l'entend pas de cette oreille et lui impose un nouveau réalisateur. C'est King Vidor qui est choisi comme quatrième réalisateur. C'est lui qui réalise toutes les scènes au Kansas avant que la tornade emporte Dorothy dans le pays d'Oz. King Vidor n'est pourtant mentionné nulle part au générique. Et pour cause. Son apport est un secret bien gardé. Il faudra attendre la mort de Fleming pour que cela soit révélé au grand jour. Il faut dire que tous deux sont de grands amis, et Vidor ne veut pas récupérer tout le travail accompli jusque-là par Fleming. Et puis, de toute façon, même si Fleming quitte Oz, il continue de suivre le projet de près. Ainsi, tous les soirs, après avoir fini sa journée sur le plateau d'Autant n'emporte le vent, Victor Fleming s'installe dans la salle de montage du Magicien d'Oz pour assurer la cohérence de sa vision artistique. En tout cas, l'intervention de King Vidor marque la dernière étape d'un processus particulièrement long. Il faut savoir qu'habituellement, la durée moyenne du tournage d'un film de la MGM est de 22 jours. Sur le papier, Le Magicien d'Oz est un projet ambitieux qui nécessite 53 jours. Dans les faits, le tournage aura duré 136 jours. Qui dit fin de tournage dit début de la post-production. Là encore, les défis sont nombreux. Ai-je besoin de vous rappeler qu'à cette époque, les effets spéciaux sont encore réalisés de manière artisanale, sans l'aide de logiciels ultra perfectionnés? Il faut par exemple créer la tornade à la main, à l'aide d'un banylon. Le son est aussi un enjeu important. Avec toutes les machines bruyantes sur le plateau, il faut réenregistrer presque tous les dialogues pour doubler les scènes. Ou encore, bruiter les chorégraphies de l'homme de fer blanc pour parfaitement synchroniser le son du métal avec les mouvements de l'acteur. Pour la MGM, il reste un problème de taille. La durée du film dépasse les 2 heures. Le studio décide alors de raccourcir la portion où Dorothy n'est pas encore arrivée à Oz. Il coupe ainsi la scène où elle chante « Over the Rainbow ». Mais le producteur y est farouchement opposé. Il est convaincu que cette chanson est l'âme du film. Alors il insiste pour la remettre dans le montage final. À force de négociations, ils arrivent à une durée d'1h40, chanson incluse. Au terme d'un très long processus créatif, la magie opère enfin. Le résultat emballe toute l'équipe du film qui s'accorde à dire que le jeu en valait la chandelle. Même Judy Garland se prête volontiers au jeu de la tournée promotionnelle, alors que la réalité de son expérience d'actrice est bien plus sombre. Le Magicien d'Oz, c'est avant tout le personnage de Dorothy et l'actrice qui l'incarne, Judy Garland. Je vous le disais, Judy n'a que 16 ans lorsqu'elle obtient le rôle. Mais elle est loin d'être novice. Avec ses 2 sœurs aînées, elle performe sur scène depuis l'âge de 2 ans. C'est à 13 ans seulement qu'elle signe avec la Metro-Goldwyn-Mayer, qui l'a fait jouer dans 20 de films. Mais derrière les paillettes se cache une toute autre réalité. Depuis ses 9 ans, sa mère l'oblige à consommer des amphétamines pour performer à haute intensité malgré la fatigue des nombreuses heures de tournage. Pour contrebalancer l'effet excitant des amphétamines, la mère de Judy la force également à consommer des barbituriques, des somnifères puissants pour l'endormir après des journées sous stimulants. Un cercle vicieux qui la plonge dans la toxicomanie dès son enfance. Une fois émancipée, Judy affirme même que la véritable méchante sorcière de l'Ouest, c'est sa propre mère, qui l'a droguée et l'a manipulée comme un vulgaire pantin. Dès le début du tournage du Magicien d'Oz, Judy Garland a donc déjà de graves problèmes d'addiction. En plus de l'emprise de sa mère, la MGM la traite très mal. On lui impose un régime strict, composé de bouillon de poulet, de café noir et de cigarettes. Rien que ça. Et comme si ça ne suffisait pas à une jeune fille de 16 ans, on lui colle un coach sportif, en même temps qu'une prescription d'une pluie de médicaments pour accélérer son amaigrissement. En fait, la MGM contrôle son physique, comme si Judy était leur propriété. Ils veulent la façonner à leur image, car ils ne l'apprécient pas pour ce qu'elle est. Lorsque le studio de cinéma signe la jeune actrice, il le fait uniquement pour sa voix d'or. Il considère que Judy Garland n'est ni assez jolie, ni assez mince pour le grand écran. Alors la MGM décide de modifier entièrement son physique. Ils remodèlent son nez à l'aide de bandes de caoutchouc et lui font porter de fausses dents et un corset pour cacher sa poitrine et ses rondeurs. C'est bien simple. Le grand patron de la MGM considère qu'elle est le vilain petit canard du studio. Il la surnomme même la bossue. Au-delà du physique, Judy Garland est sujette aux effets secondaires des nombreux médicaments qu'elle est forcée de prendre. Paranoïa, hallucinations ou encore troubles de la concentration et de l'attention. Ces effets secondaires se manifestent parfois en plein tournage. Et le réalisateur réagit très mal, puisqu'il y répond par de la violence physique, en giflant à de nombreuses reprises la jeune déconcentrée. Malgré les maltraitances, Judy se plie au jeu de l'industrie et endosse la promotion du film qui démarre avant même la fin du tournage. La jeune actrice est demandée de toutes parts et ça ne se limite pas à une suite d'interviews et de shooting photos. À chacune de ses apparitions, elle doit aussi exécuter un petit numéro de danse et de chant avec, comme clou du spectacle, la fameuse chanson « Over the Rainbow ». Fatiguée par des mois de tournage éreintant, son corps lâche petit à petit. Elle enchaîne les représentations et les malaises. Mais qu'importe pour Judy, qui se sent enfin reconnue à sa juste valeur. En août 1939, le grand moment est arrivé. Après plusieurs mois de promo et de nombreuses avant-premières, le Magicien d'Oz sort enfin aux États-Unis. Les critiques sont unanimes. Le film est fidèle à l'univers merveilleux du livre. C'est un bonbon coloré et acidulé, drôle et joyeux, qui réjouira les admirateurs du roman de L. Frank Baum. Malheureusement, les résultats financiers ne suivent pas. En dépit d'un succès critique et d'un bon début au box-office, les recettes en salle peinent à atteindre le budget de production de 2,8 millions de dollars auquel s'ajoute le budget marketing d'environ 250 000 dollars. Pour la MGM, le seuil de rentabilité n'est pas atteint. Il faut dire que ce n'est pas le seul grand film qui sort en 1939. De fait, avec les sorties de « Autant n'emporte le vent » ou « Des hauts de Hurlevent », beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que 1939 est tout simplement la meilleure année du cinéma américain. Avec la fin de la Grande Dépression, cette fameuse crise économique des années 30 et le succès des nouveaux films parlants, l'industrie cinématographique connaît un nouvel élan. Heureusement, la grande compétitivité du marché n'empêche pas le Magicien d'Oz d'obtenir la reconnaissance de ses pairs en récoltant plusieurs nominations aux Oscars. Le film remporte ainsi l'Oscar de la meilleure bande originale et de la meilleure chanson originale, tandis que Judy Garland reçoit l'Oscar de la jeunesse. Après la victoire de ces trois statuettes, la MGM décide d'offrir deux nouvelles sorties en salle au Magicien d'Oz, espérant le rentabiliser. Le pari réussit. Mais ce ne sont pas ces nouvelles sorties qui en font un film culte. En 1956, soit 17 ans après sa première sortie, la chaîne CBS achète les droits à la MGM pour le diffuser pour la première fois à la télévision. Et cette fois, les compteurs explosent. Plus de 45 millions d'Américains à travers le pays allument leur télé pour regarder les aventures de Dorothy et ses amis. Le succès télévisuel ne s'arrête pas là. Le film est à nouveau diffusé 3 ans plus tard et les audiences sont encore meilleures. Pendant 30 ans, la MGM fait du Magicien d'Oz un rendez-vous annuel sur le petit écran. Une stratégie de longévité qu'il inscrit définitivement au patrimoine culturel. Preuve de son statut de chef-d'œuvre incontournable, le Magicien d'Oz est aujourd'hui sans cesse référencé dans la culture populaire, qu'il s'agisse de Matrix, South Park, Scooby-Doo, Les Simpsons ou même les films de super-héros et ceux de David Lynch. En 2007, le Magicien d'Oz de Victor Fleming a même été inscrit au registre international de la mémoire du monde de l'UNESCO. Comment le film parvient-il à rester aussi populaire plus de 87 ans après sa sortie? Un des premiers éléments de réponse, c'est bien sûr la fameuse « Over the Rainbow », une chanson intemporelle qui s'est imposée dans le cœur et le répertoire des Américains. Elle raconte les illusions perdues d'une génération tiraillée entre la crise économique et la guerre mondiale. Et puis, il existe de nombreuses lectures du film. L'une des plus célèbres en fait un symbole de la communauté queer. D'ailleurs, « Over the Rainbow » est depuis toujours perçu comme un hymne LGBT, car le « rainbow », c'est-à-dire l'arc-en-ciel, est le symbole de la communauté, qui en a même fait son fameux drapeau. Par ailleurs, les personnages marginalisés de l'épouvantail, de l'homme de fer blanc ou du lion peureux, et leur quête d'appartenance résonnent pour beaucoup avec l'expérience queer. Judy Garland elle-même est considérée comme la première icône queer tant sa résilience dans une société et une industrie qui essaye de la formater fait écho aux luttes LGBT. Finalement, ce qui rend mythique le Magicien d'Oz, c'est peut-être le fait qu'il soit une œuvre totale. Prenez des visuels forts qui donnent des idées de déguisement pour l'éternité, des avancées technologiques extraordinaires, une musique inoubliable. Et tout ça sous la forme d'un conte initiatique qui plaît aux petits comme aux grands, et vous aurez à coup sûr un monument de la culture populaire, pur produit de l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Clara Brelot et à la collaboration des équipes de LDV Productions.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.